Les conférences du Collège de France.
Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence du soir au Collège de France. J'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Juliana Bidadanouré, qui est professeure associée de philosophie à l'Université de New York et membre affilié, il faut le dire, en tant que juriste, de la faculté de droit de cette même université. Nous avons un accord de coopération avec NYU qui nous permet d'inviter Juliana ici ce soir au Collège de France. La professeure Bidadanouré a rejoint NYU en 2023 après avoir été professeure adjointe de philosophie et professeure affiliée de sciences politiques à l'Université de Stanford, où elle était directrice du Stanford Basic Income Lab. Elle est française, elle a fait ses études à l'Université de Paris-Nanterre avant de partir étudier au Royaume-Uni, à la LSI et à York. La professeure Bidadanouré est une philosophe des inégalités, c'est son grand sujet. Elle examine dans tous ses travaux les fondements de notre engagement envers l'égalité. Elle théorise l'injustice propre aux inégalités sociales et elle exprime et explore différentes politiques publiques aptes à y remédier. Son premier livre, Justice Across Ages, Treating Young and Old as Equals, qui est paru en 2021 à Oxford University Press, s'interroge sur la manière dont nous devons appréhender les inégalités entre les individus à différents stades de leur vie. L'ouvrage propose un cadre pour guider une distribution équitable des biens publics, tels que les emplois, les soins de santé, les revenus et le pouvoir politique entre les groupes d'âge. Ses autres travaux, depuis, vont de la philosophie politique aux politiques publiques, je l'ai dit. Elle a écrit sur le revenu de base, les politiques de la jeunesse, les quotas parlementaires pour les jeunes, le capital de départ et les baby bonds. Son nouveau projet de livre, qui lui vaut cette invitation ce soir, se concentre sur l'égalité relationnelle. Elle examine les modes des relations inégalitaires, y compris, et c'est ce qu'elle va nous expliquer, l'objectification, l'animalisation, la diabolisation et l'infantilisation. En offrant, et vous allez l'entendre tout à l'heure, une analyse conceptuelle et normative de ces différents modes d'infériorisation, elle met en avant un nouveau cadre théorique pour comprendre ce que l'égalité relationnelle implique positivement. Et s'inscrivant dans la continuité de ce nouveau travail, la conférence qu'elle nous offre ce soir porte sur le terme anglais de trashification, mais la conférence sera bien sûr en français. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulgâcher le contenu de cette belle conférence qui s'annonce. Je te remercie très chaleureusement, chère Juliana, d'avoir accepté notre invitation ici au Collège de France cet après-midi. Comme d'habitude, je vous annonce déjà qu'il y aura quelques minutes de discussion à la fin de la conférence de la professeure et donc vous êtes toutes et tous bienvenus à rester pour cette discussion. Merci beaucoup.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier professeur Samantha Besson pour cette introduction attentive et généreuse, ainsi que l'Assemblée des professeurs du Collège de France de m'avoir invité. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous. J'ai passé, il est vrai, ces 20 dernières années en Angleterre et aux États-Unis, mais je suis née et j'ai grandi en France. Cela rend donc cette invitation au Collège de France particulièrement significative pour moi. Mais je m'exprime rarement en français dans un cadre académique, alors je vous prie de bien vouloir excuser par avance les petits anglicismes ici et là et les petites infidélités de traduction dans une langue qui est pourtant la mienne. Le grand thème de philosophie morale, politique et sociale qui traverse l'ensemble de mes travaux est celui de l'égalité. Une valeur à la fois incontournable et primordiale, qu'il nous faut pourtant sans cesse reprendre, repenser et réinventer. Les théories de l'égalité émergent le plus souvent dans la contestation. Elles sont formulées par celles et ceux qui s'opposent aux inégalités économiques, sociales et politiques de leur temps. Et les dénoncent comme immorales, injustes, arbitraires, cruelles ou encore liberticides. Ce travail critique s'accompagne historiquement d'une grande créativité. On mobilise la raison, l'expérience personnelle, les textes religieux, l'histoire ou encore la science pour déconstruire les thèses inégalitaires et les institutions qu'elles justifient. L'égalitarisme est donc d'abord un travail critique, un travail de dénonciation. Mais il comporte aussi une dimension positive, implicite ou explicite, qui consiste à déterminer ce que l'égalité exige, à en mesurer la valeur et à en explorer les implications. En d'autres termes, cette démarche positive vise à déterminer quelle valeur égalitaire doit servir d'étoile polaire pour l'établissement d'une société juste. Mon travail s'inscrit à l'intersection des démarches négatives et positives que je viens de présenter. Alors, qu'est-ce que l'égalité au juste? Comment la théoriser? Il y aurait évidemment beaucoup à dire, mais une manière très répandue de conceptualiser l'égalité est distributive. Dans la tradition de la philosophie politique qui s'inscrit dans la continuité des travaux de John Rawls au début des années 70 aux États-Unis, l'idée dominante est qu'une société juste est une société dans laquelle chacun reçoit une part égale d'un certain bien, appelons-le X. Lorsqu'on pose le problème en ces termes, deux grandes questions s'imposent. La première, formulée de manière célèbre par le philosophe et économiste Amartya Sen, concerne la métrique de l'égalité. Equality of what? Autrement dit, quel est ce bien X qu'il convient de distribuer? S'agit-il de ressources, d'opportunités, de biens premiers, de bien-être ou encore de capacités? La seconde question porte sur la manière de répartir ce bien. Dans quelle mesure faut-il tenir compte des choix, des ambitions personnelles, ainsi que de la responsabilité individuelle pour établir la part équitable de chacun. Mais cette façon de penser l'égalité a progressivement été remise en question. Une autre approche s'est imposée depuis une trentaine d'années comme une alternative majeure. Il s'agit de l'égalitarisme relationnel. Cette perspective a été formulée de manière particulièrement influente par la philosophe américaine Elizabeth Anderson, dans un article de 1999 qui critique l'égalitarisme distributif et plus spécifiquement l'égalitarisme des chances. Elle s'inscrit toutefois dans une généalogie plus large qui comprend notamment les travaux de la philosophe Iris Myron Young. L'idée centrale est la suivante. L'enjeu fondamental de l'égalité n'est pas de parvenir à une distribution exactement ajustée ou cosmiquement parfaite des biens, mais plutôt d'établir des sociétés dans lesquelles les individus se rapportent les uns aux autres comme à des égaux. Autrement dit, l'égalité ne serait pas fondamentalement une question de répartition, mais une question de relation. Alors, cela suppose d'élargir les paramètres de l'analyse. Au-delà des biens, il faut prendre en compte ce qui anime les relations sociales, le respect, la reconnaissance ou leur absence, les hiérarchies sociales, les rapports de subordination, ainsi que certaines formes de mépris, d'humiliation ou d'infériorisation. Mais tout cela fait aussitôt surgir une difficulté. Que signifie exactement le rapport d'égal à égal? Force est de reconnaître que la notion est quelque peu obscure, plus difficile à saisir et à opérationnaliser qu'une approche distributive fondée plus simplement sur l'identification d'un bien et d'un principe de répartition. Pour progresser sur ce plan, j'adopte d'abord une démarche négative. Plutôt que de commencer par définir ce que signifie le rapport d'égal à égal, j'examine une série de modes de relations inégalitaires. Parmi ces modes, on peut citer l'infantilisation, l'animalisation, l'objectification ou encore la démonisation, plus souvent appelée diabolisation en français. Plusieurs expressions semblent pertinentes pour les désigner. Mode d'infériorisation, relation inégalitaire ou encore technologie d'avilissement. En suivant le philosophe français Grégoire Chamaillou, même s'ils l'utilisent un peu différemment. Ce sont des cas paradigmatiques du rejet du rapport d'égalité. Et il convient d'analyser ce qu'ils révèlent en creux, pris à la fois séparément et conjointement, sur ce qu'une relation d'égal à égal implique. C'est là que les deux démarches, positives et négatives, se rencontrent. Un élément important concernant les concepts mobilisés pour décrire ces modes d'infériorisation est qu'ils suggèrent toujours une forme de transformation. Il s'agit de convertir quelqu'un en ce qu'il n'est pas. On ne peut pas infantiliser un enfant, c'est déjà un enfant. On ne peut pas démoniser un démon, c'est déjà un démon. On ne peut pas objectifier un objet, c'est déjà un objet. On peut bien sûr traiter un enfant comme un enfant, un objet comme un objet, mais cela ne relève pas, à proprement parler, de l'infantilisation ni de l'objectification. Une première question consiste donc à se demander qu'est-ce qu'un enfant ? Qu'est-ce qu'un animal ? Qu'est-ce qu'un objet ? Qu'est-ce qu'un démon ? Pour qu'il soit inapproprié de traiter une personne comme telle. Et pourtant, toutes les manières de traiter un enfant ou un objet, par exemple, ne deviennent pas automatiquement problématiques lorsqu'elles sont appliquées à un adulte ou à une personne. Je peux, par exemple, préparer un repas pour mon compagnon, comme je le fais pour mes enfants, ou essuyer le visage de mon enfant comme j'essuierais un objet avec un chiffon. Cela ne signifie pas que j'infantilise mon partenaire ni que j'objectifie mon enfant. La question n'est donc pas seulement de savoir ce que sont les enfants, les animaux, les objets ou les démons, mais aussi quels aspects de leur ontologie et de nos manières de les traiter sont mis en jeu lorsque nous formulons une objection à la démonisation, à l'infantilisation ou à l'objectification. Il faut également pousser la réflexion un peu plus loin et se demander si le problème ne tient pas parfois à notre manière de traiter le comparateur lui-même. Peut-être est-ce parce que nous échouons à traiter les enfants ou les animaux avec le respect qui leur est dû que l'infantilisation et l'animalisation sont si condamnables. Cette question est moins centrale dans le cas de l'objectification, dans la mesure où il y a moins à dire sur le traitement moralement approprié des objets, même s'il existe bien sûr des objets sacrés. Mais même si nous révisions radicalement notre manière de traiter les enfants, les animaux, et pourquoi pas les objets, il me semble que la conviction qu'il est inapproprié de traiter une personne comme un simple animal, un simple objet ou un enfant subsisterait. Enfin, d'autres questions viennent compléter ce cadre d'analyse. Quelles présuppositions agentives, c'est-à-dire quelle conception des capacités d'action et de jugement des personnes, sous-tendent chacun de ces modes d'infériorisation ? Suppose-t-on un agent rationnel, irrationnel, dysfonctionnel, malveillant ? Quelles émotions sont mobilisées ? S'agit-il de la peur, du dégoût, de la pitié ? Quelle est leur fonction sociale ? Quel type de discours et de recommandations politiques leur sont généralement associés ? Est-ce qu'on voit des réponses punitives, par exemple comme dans le cas de la diabolisation, ou paternalistes, comme dans le cas de l'infantilisation ? Et bien sûr, quel est le mal propre et singulier à chacune de ces formes d'infériorisation ? Ici, vous voyez une tentative d'extraire ce qui semble emblématique de chacun, le déni de maturité pour l'infantilisation, le déni d'agentivité pour l'animalisation, le déni de statut de fin en soi, ou la réduction au statut de simple moyen pour l'objectification, et l'attribution d'une essence déviante et dangereuse à son paroxysme conçu comme immuable pour la démonisation. Et il y a la trashification à laquelle je vais consacrer cette présentation, le reste de cette présentation. On pourrait se demander quel mode d'infériorisation figure dans cette liste. Et si on commence à en ajouter ou en inventer, comme c'est le cas pour la trashification, où s'arrête-t-on ? Je pars en fait de trois catégories. Tout d'abord, certains de ces modes d'infériorisation sont bien identifiés. C'est le cas, il me semble, de l'infantilisation, l'animalisation, l'objectification. Des phénomènes qui sont toujours nommés, même s'ils sont parfois insuffisamment théorisés. D'autres sont très présents dans le langage et les pratiques, mais restent encore peu stabilisés conceptuellement, voire largement absents de la théorie. C'est le cas, par exemple, de la démonisation. Et puis, il y a ceux qui semblent importants, mais demeurent en quelque sorte dans l'ombre des précédents. C'est le cas, il me semble, de l'adultification, qui fonctionne comme l'envers vicieux de l'infantilisation, où des enfants sont traités comme s'ils étaient des adultes, dans les contextes juridiques ou interpersonnels. Ici, le problème n'est pas un déni de maturité, mais au contraire un déni d'immaturité. C'est dans cet espace plus discret que j'inscris la trashification, que j'ai d'abord rencontrée comme une sorte d'ombre portée de l'objectification. Mais ici, comme on va le voir, le problème n'est plus celui de l'utilisation d'une personne comme un simple moyen en vue d'une fin, mais plutôt celui de son traitement comme un moyen en vue de nulle fin, ou un moyen sans fin. Venons-en donc au concept de trashification. Alors, contrairement aux autres modes d'infériorisation considérés plus tôt, celui-là n'existait pas comme concept. Il s'agit d'un néologisme et d'un anglicisme. Pardonnez-moi cette double faute, j'expliquerai ce choix un peu plus tard. J'espère vous convaincre aujourd'hui que nous avons besoin de ce concept pour décrire une réalité sociale diffuse et inquiétante qui doit être étudiée et confrontée au même titre que l'objectification. Trashification vient du terme « trash », qui désigne en anglais les déchets, les ordures, ce qui va à la poubelle. En faisant des recherches, j'ai trouvé quelques itérations rares du mot « trashify » en anglais, qui signifie « transformer quelque chose en déchet ». Par trashification, j'entends un ensemble de processus sociaux par lesquels des personnes en viennent à être perçues comme des déchets, assimilées à des déchets et traitées comme telles. Le mot « déchet » renvoie à un ensemble hétérogène d'objets et de matières rejetées. Des restes de la vie humaine, des choses qui avaient autrefois une fonction et qui n'ont désormais plus de valeur. Le déchet nous rappelle que ce qui est utile peut très facilement basculer dans l'abandon. Il mobilise aussi fortement nos sens, il est inesthétique, désordonné, associé à la saleté et à la décomposition. C'est quelque chose que l'on préfère ne pas toucher, ne pas sentir et que l'on cherche à tenir à distance, à contenir, à faire disparaître. Dès lors, on peut bien sûr mesurer la violence qu'il y a à être qualifié de déchet, à être perçu comme tel, ou à être traité comme une chose dont il faudrait se débarrasser. On peut en saisir les contours à partir de différents registres, mais le langage constitue souvent un bon point de départ. Récemment, Donald Trump a pu s'inquiéter que les États-Unis deviennent une garbage can, c'est-à-dire une poubelle, sous-entendant que les immigrés sont des déchets, et a qualifié plus directement certains groupes de garbage, c'est-à-dire ordures, comme les immigrés somaliens. On retrouve cette logique et ce langage aussi dans les appels constants aux États-Unis à « clean up the streets », c'est-à-dire nettoyer les rues, pour résoudre le problème du sans-abrisme ou de la dépendance aux drogues dans les centres urbains américains. Mais ce type de rhétorique n'est pas propre au contexte américain, bien sûr. Je me souviens encore de l'époque où Nicolas Sarkozy évoquait la nécessité de nettoyer les banlieues au Karcher, en visant à d'autres occasions ce qu'il appelait les racailles. Ce terme vient du vieux français « rasquer », qui signifie « racler », lui-même issu du latin populaire « racicare », « raser ». Le vocabulaire ici renvoie donc explicitement à l'idée de nettoyer, d'enlever, de faire disparaître ce qui salit et n'a aucune utilité, voire même une utilité négative. Ayant grandi à Saint-Denis, à 1 km de la cité des 4000 où ces mots ont été prononcés, je ne peux pas m'empêcher d'y entendre plus qu'une simple image, sans doute une manière de concevoir et de constituer certaines vies comme superflues. Alors, en approfondissant cette question, je me suis souvenu d'un terme injurieux qui fait explicitement référence aux déchets, white trash. C'est une insulte répandue aux États-Unis qui associe certaines personnes à des déchets en les désignant comme tels. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, elle m'était étrangère quand je suis arrivée aux États-Unis. White trash évoque l'image de personnes blanches très pauvres, résidant dans des parcs à caravanes, en Appalaches ou dans le Midwest, ou vivant dans une pauvreté extrême dans les centres urbains, parfois dépendant des drogues. Le terme a une longue histoire, remontant au XIXe siècle dans le sud des États-Unis. Comme plusieurs auteurs l'ont souligné, white trash est une insulte raciale structurée de manière oxymorique. White évoque la pureté, la respectabilité, la propreté. Trash évoque la saleté, l'impureté, la non-valeur, la jetabilité. Dans un contexte racialiste, white renvoie à la pureté et la supériorité raciale. Trash, en revanche, renvoie à l'inverse, c'est-à-dire l'infériorité raciale et le mélange racial. Une logique suprémaciste sous-tend donc l'expression. En juxtaposant la blancheur à son opposé, elle suggère que certains blancs ne seraient pas tout à fait blancs, comme le note l'historien Matt Ray. White trash insulte donc simultanément deux groupes, les blancs pauvres jugés indignes de leur appartenance raciale et les non-blancs implicitement considérés comme des déchets par défaut dans l'idéologie suprémaciste. Si white trash est oxymorique, black trash ne l'est pas, comme l'a noté le philosophe politique antiraciste Charles Mills dans un passage éclairant, je vous le cite. White trash est un avertissement, un épithète adressé à ces personnes blanches qui ne remplissent pas, pour ainsi dire, les obligations de la blancheur et perdent ainsi leur statut plein et entier. Black trash, en revanche, est redondant, car black porte déjà les connotations de la saleté et de la déchéance. L'histoire du terme témoigne d'une obsession persistante de la pureté et de la supériorité, mise blanche, mise à mal par l'existence d'une pauvreté extrême au sein même des populations blanches. Dès le XVIIIe siècle, des termes comme « loubers » et « crackers », précurseurs de l'insulte raciale « white trash », désignaient des blancs considérés comme paresseux, improductifs, vivant en marge et souvent en contact avec les populations autochtones ou esclaves, brouillant ainsi les frontières raciales. Il existe des indices sporadiques suggérant que des esclaves noirs auraient pu être les premiers à utiliser l'expression « poor white trash » pour parler des blancs pauvres du Sud, peut-être en réaction hostile aux tentatives de certains domestiques blancs d'affirmer leur supériorité. Mais ce sont les élites blanches qui ont véritablement popularisé l'expression et lui ont donné une portée sociale, si bien que dès les années 1830, elle était largement répandue pour désigner le phénomène des blancs très pauvres, prétendus, improductifs, paresseux, sales et brutaux. Deux récits concurrents émergent alors. Le premier, soutenu par les abolitionnistes, voyait dans ces blancs pauvres les résidus pathologiques d'une économie esclavagiste immorale. Le second, défendu par les partisans de l'esclavage, était prévisiblement différent. L'existence de « poor white trash » posait problème puisqu'ils affirmaient la supériorité naturelle de la race blanche. Comment alors concilier ces blancs appauvris et supposés dégénérés avec un discours de supériorité raciale naturelle? Leur solution a alors été d'affirmer qu'ils seraient porteurs d'un mauvais sang, biologiquement dégénéré, produit d'une blancheur polluée par des unions interraciales. Certains sécessionnistes soutenaient aussi que les poor white trash descendaient des waste people britanniques envoyés dans les colonies, des miséreux, des criminels, des pauvres en surplus, des vagabonds, des marginaux. Avec l'essor de l'eugénisme, cette lecture se radicalise. Au début du XXe siècle, des internements et des stérilisations forcées sont couramment pratiquées dans le sud américain contre celles et ceux que l'on désigne comme des déchets humains, afin d'empêcher la transmission de cette prétendue dégénérescence. On invoque aussi souvent une origine pathologique pour expliquer l'arriération et la paresse attribuées aux blancs pauvres du Sud. Se lance une vaste croisade contre l'ankylostomiase, une maladie parasitaire censée se transmettre par ingestion de terre contaminée ou le contact avec des excréments infectés. Cette explication alternative rend possible d'imaginer leur éventuelle réhabilitation en tant que travailleurs productifs, mais elle renforce aussi les associations entre les blancs pauvres et la saleté, les excréments. Ce qui se dessine donc à travers cette histoire cette insulte raciale « white trash », c'est donc une association durable entre pauvreté, saleté, improductivité et inutilité sociale, une manière de percevoir certaines populations comme des déchets. Et cette logique ne révèle pas seulement du passé. L'insulte persiste dans le langage courant, mais aussi dans certaines expériences vécues et certaines formes d'intériorisation. L'essayiste et aumônier américain Cedar Monroe, qui a vécu et travaille dans des zones de grande pauvreté, s'exprime ainsi dans son livre Trash, A Poor White Journey. Là, beaucoup d'entre nous ont été jetés, tout comme les tas d'ordures qui entouraient les villes de tentes s'étendant sur toute la côte. Des gens déchets, vivant parmi les déchets, voilà le récit dominant de nos vies. Donc, on voit bien ici que le terme trash, dans cette expression, n'est donc ni une énigme, ni un hasard, ni une étrangeté. Nous ne sommes pas non plus face à de simples métaphores. La trashification est ancrée dans des conditions matérielles et institutionnelles. Elle est vécue et éprouvée. Et on ne peut en saisir la portée qu'en comprenant vraiment ce que sont les déchets et ce qu'ils symbolisent. La trashification s'inscrit dans une logique de population excédentaire, de groupe dont la force de travail est mobilisée lorsqu'elle est utile et mise au rebut lorsqu'elle ne l'est pas. Ce point rejoint l'analyse du sociologue Zygmunt Bauman sur la production moderne dans son ouvrage « Vie perdue ». La trashification apparaît comme un processus social, matériel et politique qui relie des systèmes de production et de localisation des déchets à des hiérarchies sociales. À son terme, cette logique peut aller jusqu'à une forme d'élimination des personnes concernées, souvent par des morts indignes et prématurées. Ce point, quelque peu extrême, mérite d'être clarifié. Monroe, l'auteur dont je viens de parler, en fournit des exemples frappants chez les sans-logements ou mal-logés avec lesquels elle travaille. La vision d'une personne âgée dans un état comateux, dans un taudis, avec un membre en décomposition, c'est un exemple qu'elle donne dans son livre, une citation, ou celle d'un jeune mourant d'une pneumonie, seul dans une cabane, après s'être vu refuser l'accès aux hôpitaux. Monroe rapporte aussi des propos du type « ces gens devraient tous mourir » et les personnes très vulnérables avec lesquelles elles travaillent ont souvent le sentiment que dans le regard des autres, leur disparition ne serait pas perçue comme une perte. L'exemple sur lequel je viens de passer du temps, l'histoire d'une insulte et de ses réalités vécues, peut nous aider à mieux comprendre le phénomène social de la trashification. Mais avant de conceptualiser ces caractéristiques centrales, il faut peut-être faire une pause et se demander ce que nous attendons au juste d'une théorie de la trashification. Dans des travaux antérieurs, j'ai développé des théories de l'infantilisation et de la démonisation, mais les paramètres méthodologiques d'une enquête qui définit son propre objet sont nécessairement distincts de ceux propres à une enquête dont l'objet est déjà bien défini. Il faut à la fois nommer, choisir des cas, définir des critères d'inclusion et proposer une critique, autrement dit, stabiliser l'ensemble des paramètres conceptuels. Il faut également situer la trashification par rapport à des concepts voisins, afin de montrer qu'elle désigne bien un phénomène singulier, insuffisamment décrit par les catégories existantes. Conserver l'anglicisme trashification en français est déjà un parti pris. Les traductions françaises de trash ne me semblent pas suffisamment pertinentes au vu du phénomène social. Ordure, il me semble, moralise trop rapidement. Tandis que déchet n'a pas assez de résonance linguistique pour fonctionner comme catégorie sociale d'infériorisation. Trash présente quant à lui toute une constellation de significations autour du rebut, de la saleté, de la dégradation et de l'abandon, et fonctionne déjà comme une catégorie sociale d'infériorisation dans des expressions comme celle que je vous ai donnée, et aussi une autre qui est très connue, qui est trailer trash. Trash fonctionne aussi comme un nom massif, c'est-à-dire qui renvoie à quelque chose qu'on ne peut pas dénombrer. Ce qui me paraissait important de conserver, car cela reflète une négation profonde de l'individualité des personnes. Et il ne faut pas oublier que trash en anglais est aussi un verbe, pas seulement un nom commun. Le verbe to trash veut dire jeter, jeter à la poubelle, se débarrasser de quelque chose. Donc il me semblait important de garder trashification en français pour évoquer ce passage à l'acte, ce traitement, cette logique de traitement, et pas seulement de représentation dans l'expression. À partir de cette étude de cas, un processus social distinct en trois phases qui, je pense, mérite cette innovation conceptuelle, se révèle. La première, c'est l'association. La deuxième, c'est l'assimilation, qu'on peut aussi appeler l'amalgame. Et la dernière, c'est la mise au rebut ou l'élimination. Le terme association revêt plusieurs sens. Dans un premier sens, relativement abstrait, il désigne une connexion réelle ou mentale entre deux choses. Lorsque nous associons deux phénomènes, nous avons tendance à penser à l'un lorsque nous pensons à l'autre, parce que nous sommes habitués à les voir ensemble, par exemple. Nous associons la pluie au nuage, pour illustrer. Il est important de distinguer cette idée d'association et celle d'assimilation que j'aborderai ensuite. Dans une relation d'association, les deux éléments demeurent distincts. Les nuages ne sont pas la pluie, même s'ils y sont associés. Les associations peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins établies. Elles peuvent reposer sur des relations causales, corrélatives ou simplement des habitudes perceptives. Le terme possède également un second sens, plus concret, celui d'un lien effectif, social ou institutionnel entre des individus ou des groupes. On parle ainsi d'association professionnelle ou encore de discrimination par association lorsqu'une personne subit un préjudice en raison de sa proximité avec un groupe stigmatisé. Dans le cas de la trashification, ce deuxième sens est moins central puisque le déchet n'est pas un agent, bien sûr. Mais il révèle néanmoins un point important. Les associations mentales reposent souvent sur des formes réelles de proximité matérielle et sociale, voire institutionnelle. L'association aux déchets implique donc à la fois des conditions matérielles et des représentations mentales. Les personnes sont parfois associées aux déchets parce que leur existence est profondément et visiblement enchevêtrée avec celui-ci. Il est utile de commencer par celles et ceux qui ne sont généralement pas associés aux déchets. Nous produisons tous des déchets quotidiennement. Nous nettoyons nos maisons, jetons des objets inutiles, vidons nos poubelles. Pourtant, cette interaction ordinaire avec le déchet ne suffit pas à instaurer une association durable. Ce qui semble décisif, ce n'est pas simplement, ou peut-être même pas du tout, la quantité de déchets produits, mais le degré d'enchevêtrement visible entre une vie et les déchets. La plupart d'entre nous entretiennent avec les déchets une relation brève, privée et contrôlée. Nous pouvons nous en débarrasser, nous en éloigner. On pourrait parler ici d'un privilège de distanciation vis-à-vis du déchet. En revanche, certaines populations vivent entourées de déchets, parfois de leur récupération ou à proximité immédiate de décharges et de terrains dégradés. Dans les situations de grande pauvreté, les déchets peuvent devenir des ressources nécessaires à la survie pour se vêtir, se nourrir ou construire des abris. Les personnes vivant à la rue en particulier se trouvent ainsi dans une situation singulière. Elles ne peuvent pas simplement s'éloigner des déchets. Elles doivent transporter leurs possessions en permanence. Et à mesure que ces objets se détériorent sous l'effet de l'exposition, de l'humidité, du temps, les frontières entre possessions nécessaires et déchets finissent par se brouiller. Ces possessions, pourtant essentielles à la survie, sont considérées comme des déchets. faute d'espace privé pour les conserver ou de protection juridique effective, elles demeurent exposées, vulnérables, saisissables. Lors des opérations de démantèlement des campements, ces biens peuvent être détruits ou jetés comme de simples rebuts. Les personnes peuvent également être associées aux déchets lorsqu'elles vivent à proximité des décharges ou dans des territoires dévalorisés et pollués. Toute une tradition de réflexion sur le racisme environnemental montre comment des populations déjà dévalorisées sont reléguées dans des espaces eux-mêmes perçus comme sans valeur. On peut penser ici aux populations roms en Europe, démesurément représentées en proximité des décharges ou zones de traitement des déchets. Un cercle vicieux d'auto-justification tend alors à se mettre en place, comme le décrit Charles Mills, que j'ai déjà introduit, Charles Mills. Certaines populations sont reléguées dans des espaces dégradés parce qu'elles sont déjà perçues comme inférieures, puis leur présence dans ces espaces est mobilisée comme confirmation visible de leur prétendue infériorité et comme justification de leurs conditions et de leur traitement. Enfin, celles et ceux qui travaillent au ramassage des déchets sont également vulnérables à ce type d'association. Ces risques se situent sur un continuum. Cela vaut particulièrement pour certains groupes historiquement contraints à travailler au contact des déchets ou des excréments sur plusieurs générations, par exemple les Dalits intouchables en Inde, mais aussi à des degrés variés par les travailleurs du secteur de la gestion des déchets qui travaillent dans des conditions plus ou moins favorables et avec des équipements plus ou moins adéquats. Ce premier processus, l'association aux déchets, ne suffit pas encore en lui-même à constituer pleinement un cas de trashification. Mais il crée les conditions d'une transformation profonde. Lorsque l'existence sociale d'une personne se trouve visiblement et durablement structurée par la proximité du déchet et des décharges, et qu'elle ne dispose plus de la possibilité de s'en distancier, elle devient davantage exposée au risque d'être assimilée et traité comme un déchet. On parlera alors de risque de trashification. Venons-en donc. Venons-en donc à l'assimilation. Dans la phase d'assimilation, les personnes sont perçues et décrites comme des déchets en elles-mêmes. Une association désigne un lien plus ou moins ténu entre deux choses, tandis que l'assimilation tend à les confondre ou à les traiter comme identiques, ou au moins comme similaires. Ce passage de la proximité aux déchets à l'identification aux déchets est bien illustré par Simon Paré-Poupart, éboueur canadien, lorsqu'il écrit dans son livre, je le cite, « J'ai une expérience bien particulière de la vie. Je passe mes jours au milieu des ordures. Depuis 20 ans, j'ai charrié près de 70 000 tonnes de déchets et cela a nécessairement façonné qui je suis. Dans le regard du passant, il m'arrive de voir qu'on me confond avec les déchets que je transporte. » Un exemple particulièrement clair d'assimilation apparaît dans un passage discuté par le philosophe du droit Jeremy Waldron dans ses travaux sur le sans-abrisme. Waldron cite un article de Robert Ellison, un autre théoriste du droit, se plaignant des parcs urbains. Des parcs urbains, je le cite, remplis de détritus, d'excréments humains, de seringues, de sacs de couchage, de drogués et de préservatifs usagés. Les consommateurs de drogue apparaissent ici comme un élément parmi d'autres dans une liste d'objets indésirables qui suscitent le dégoût, qui ont une valeur négative et dont il faudrait se débarrasser. Comme le montrent ces exemples, l'assimilation aux déchets peut être observée dans le langage et les discours, c'est-à-dire dans la manière dont certaines personnes sont désignées. On pourrait supposer qu'ils reflètent un état mental correspondant, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains individus peuvent employer stratégiquement le langage du déchet afin de promouvoir un agenda particulier sans pour autant considérer les personnes concernées comme des déchets. Cela soulève néanmoins une difficulté importante. Comment faut-il comprendre exactement la phase d'assimilation ? Comme dans les autres formes de déshumanisation, il ne s'agit pas nécessairement de penser que certaines personnes seraient identiques aux déchets dans tous les sens du terme. Comment cela serait possible ? Les personnes ne sont ni des simples objets, ni des déchets, ni des animaux, etc. On le voit bien. Je voudrais proposer une manière de comprendre cette assimilation instable dans le cadre de la trashification. Les personnes ne sont pas nécessairement confondues avec le déchet dans son intégralité, ce sont plutôt certains aspects de son ontologie, donc de l'ontologie du déchet, qui sont mobilisés pour les penser. Le déchet possède plusieurs caractéristiques saillantes. Il est sale, impur, cassé, sans valeur, intouchable, jetable. Lorsque nous revenons à notre cas de départ, celui de l'insulte raciale white trash, nous retrouvons précisément ces caractéristiques. L'idée d'impureté, par exemple, apparaît dans les récits de dégénérescence raciale. Mélange des races, mauvais gènes, consanguinité. À cette impureté s'ajoute également une idée de non-valeur. Là où l'objectification réduit les personnes à leur utilité instrumentale, les trashifiés apparaissent au contraire comme inutiles et donc sans valeur. Une dimension centrale des représentations de white trash est précisément l'idée d'une incapacité à produire quoi que ce soit de valable. Même leur reproduction était historiquement considérée comme déficiente, puisqu'ils étaient supposés engendrer des descendants dégénérés. On retrouve enfin un imaginaire de dégradation et de cassure. Cedar Monroe décrit par exemple des populations rendues économiquement redondantes par les transformations technologiques qui vivent désormais dans des conditions d'extrême pauvreté avec seulement quelques possibilités de travail précaires. Les accidents du travail, la maladie, l'absence de logement stable ou de soins contribuent alors à une détérioration progressive du corps et de l'esprit, ce qui renforce l'usage d'une ontologie du déchet pour appréhender leurs existences. Corps trop faible, trop malade, trop brisé ou trop âgé pour être encore utile. Je voudrais donc suggérer qu'il existe un profil de cas spécifique qui justifie véritablement l'accusation de trashification. Des situations où plusieurs de ces caractéristiques ontologiques convergent simultanément pour décrire des personnes, ou encore où le langage du déchet apparaît explicitement, même lorsque moins de caractéristiques ontologiques sont présentes. Bien évidemment, tous les cas de pauvreté ne relèvent pas de la trashification, mais il faut, il me semble, être très attentif à ce profil très dangereux. Enfin, il y a une troisième étape, un troisième élément dans la trashification. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la mise au rebut. Il y a une logique effroyable de mort qui sous-tend ces processus, à travers des formes d'abandon social qui raccourcissent inévitablement les vies humaines. La mise au rebut constitue une dimension centrale de la trashification. Une fois des personnes associées au déchet, puis assimilées à celui-ci, l'étape suivante consiste parfois, logiquement, à recommander leur élimination. Des incidents récents, comme cette femme sans logement à San Francisco, arrosée au jet d'eau, comme s'il n'était qu'un détritus par un riverain en colère, montrent les conséquences concrètes d'un rapport à l'autre mis en pratique. On peut identifier plusieurs processus interconnectés qui se chevauchent et se renforcent mutuellement, principalement la négligence, l'abandon, le confinement ou la mort. La négligence combine inattention et inaction. Elle désigne à la fois l'échec à fournir les soins et l'attention nécessaires et l'échec à intervenir lorsqu'il le faudrait. La négligence conduit à la mise au rebut car elle produit progressivement des corps en grande dégradation à force de souffrance et de manque. Dans le contexte de la trashification, la négligence sociale apparaît très clairement dans le cas du sans-abrisme urbain aux États-Unis. Des milliers de personnes passent chaque jour devant des individus affamés, malades, assoiffés, souffrant du froid, de la chaleur ou de maladies non traitées. La négligence survient à toutes les étapes du processus. Elle explique pourquoi certaines personnes se retrouvent à la rue, vivent entourées de déchets et doivent faire l'expérience de leur corps et de leurs esprits qui se détériorent progressivement. La négligence peut donc précéder chronologiquement l'association et l'assimilation. Mais elle joue également un rôle central dans la mise au rebut elle-même, puisque l'inaction mène inévitablement à la mort, une forme de mise au rebut naturelle. Une fois qu'une personne vit durablement dehors, Son espérance de vie chute de plusieurs décennies par rapport à la moyenne. Une forme particulière de négligence mérite ici notre attention. Il s'agit de la négligence médicale. Elle survient lorsque des personnes malades ne reçoivent pas les soins nécessaires. Cela inclut notamment l'absence de prise en charge psychiatrique pour des personnes incapables de répondre seules à leurs besoins les plus élémentaires. La négligence médicale prend également la forme d'un défaut de prise en charge de pathologies pourtant curables qui deviennent irréversibles faute d'intervention. Les exemples sont nombreux, souvent trop insoutenables pour être détaillés ici. Des ulcères ou des coupures bénignes deviennent des abcès, puis des infections, puis des gangrènes nécessitant des amputations. La gangrène correspond à une nécrose localisée d'une partie du corps. Lorsque certaines parties du corps deviennent elles-mêmes des éléments à éliminer, nous atteignons le cœur de la logique de trachification comme mise au rebut. Nous sommes vraiment aussi ici dans ce que Bourdieu appelait l'inscription des structures sociales dans les corps. Plus troublant encore, peut-être, certaines personnes finissent bien par atteindre un hôpital, par choix ou par contrainte, mais dans un état si dégradé qu'elles sont considérées comme incurables, puis renvoyées à la rue. Patrick Desclercq, qui a travaillé et écrit sur son expérience de professionnel de santé, et Cédar Monroe, dans des travaux très différents l'un de l'autre, décrivent pourtant des réalités très similaires. Les professionnels de santé savent souvent que ces patients retourneront immédiatement dans la rue après leur sortie, incapables de garder leurs plaies propres ou de préserver leur santé. À cela s'ajoutent parfois des réactions de dégoût et de répulsion qui influencent les soins prodigués ou leur absence, et augmentent les risques de ce qu'on appelle « patient dumping », c'est-à-dire le renvoi ou le transfert des patients vers d'autres établissements. Un pas supplémentaire au-delà de la négligence est l'abandon. Si la négligence relève d'une inaction, l'abandon désigne une désertion plus active. L'abandon peut prendre des formes institutionnelles, fermeture de refuges, réduction des budgets de santé ou de logement, démantèlement des programmes de logement, alors même que le nombre de personnes sans logement augmente. Mais il peut également prendre une forme ordinaire, accepter qu'un homme vivant dans sa rue meure lentement, membre après membre, sans vraiment tenter d'intervenir. L'aboutissement ultime de cette mise au rebut est la mort. Des communautés entières sont abandonnées à des morts évitables, maladies non traitées, violences policières, violences de rue, suicides, overdoses. Ces morts sont normalisées et attendues. On peut aussi s'éloigner de la question de l'abandon des sans-abri pour étudier un autre exemple particulièrement bouleversant d'abandon qui apparaît dans le livre « Narrative of the Life of a Slave » du grand penseur abolitionniste Frederick Douglass en 1845. Douglass raconte comment sa grand-mère, après une vie entière d'esclavage, fut abandonnée à la mort dans une cabane isolée. Comme j'ai encore un peu de temps, je prends la liberté de vous lire ce quote en anglais d'abord, et puis ensuite de vous traduire une petite partie. And to cap the climax of their base ingratitude and fiendish barbarity, my grandmother, who was now very old, having outlived my old master and all his children, having seen the beginning and end of all of them, and her present owners finding she was of but little value, her frame already racked with the pains of old age, and complete helplessness fast stealing over her once active limbs, they took her to the woods, built her a little hut, put up a little mud chimney, and then made her welcome to the privilege of supporting herself there in perfect loneliness, thus virtually turning her out to die. If my poor old grandmother now lives, she lives to suffer in utter loneliness. She lives to remember and mourn over the loss of children, the loss of her grandchildren, and the loss of great-grandchildren. She gropes her way in the darkness of age for a drink of water. Instead of the voices of her children, she hears by day the moans of the dove, and by night the screams of the hideous owl. All is gloom, the grave is at the door, and now, when weighed down by the pains and aches of old age, when the head inclines to the feet, when the beginning and ending of human existence meet, and helpless infancy and painful old age combine together, my poor old grandmother, the devoted mother of 12 children, is left all alone in yonder little hut before a few dim embers. She stands, she sits, she staggers, she falls, she groans, she dies. And there are none of her children or grandchildren present to wipe from her wrinkled brow the cold sweat of death or to place beneath the sod her fallen remains. C'est un passage très, très dur d'un livre qui est déjà très dur, mais dont je me suis toujours souvenue après l'avoir lu. Je vous traduis juste une petite partie importante. Voyant qu'elle ne valait pas grand-chose, donc la grand-mère qui était esclave, voyant qu'elle ne valait pas grand-chose, sa constitution déjà affaiblie par les infirmités de la vieillesse et l'impuissance s'emparant visiblement de ses membres autrefois actifs, ils l'emmenèrent dans les bois, lui bâtirent une petite cabane avec une cheminée de boue et lui accordèrent le privilège de subvenir à ses propres besoins dans une solitude absolue. C'était en réalité la mettre dehors pour mourir. Si ma pauvre vieille grand-mère vit encore, elle ne vit que pour souffrir dans un abandon complet. Ce passage illustre une continuité profonde entre l'objectification et la trashification. Une personne utilisée toute sa vie comme un instrument de travail, un outil de travail, une fois jugée inutile, devient un déchet dont il convient de se débarrasser. Cet exemple montre aussi que certaines formes de trashification peuvent se passer de la phase d'association. Ici, c'est le traitement lui-même qui devient central. L'abandon et la mise au rebut révèlent la réduction de la personne à une chose devenue inutile, désuète, jetable. De plus, on notera que les différentes dimensions de la trashification ne fonctionnent pas seulement de manière chronologique, comme je l'ai présenté, association, assimilation, mise au rebut, mais aussi comme un cercle vicieux. L'abandon produit des réalités matérielles et sociales d'enchevêtrement avec les déchets qui renforcent ensuite l'appréhension des personnes à travers l'ontologie du déchet, produisant encore davantage d'abandon et de mise au rebut. On pourrait parler ici d'un processus social qui produit ses propres conditions de justification. Les conséquences même de l'abandon servent ensuite à justifier l'abandon. Nous sommes maintenant en mesure de conclure cette analyse de la trashification en la confrontant plus frontalement à l'objectification. Les déchets sont composés d'objets indésirables certes, mais tout de même d'objets. Il semble donc naturel de considérer la trashification comme une forme d'objectification. Un bon point de départ, en raison de son importance et de sa clarté analytique, est l'article de Martha Nussbaum de 1995, intitulé « Objectification », dans lequel elle distingue sept dimensions du phénomène. L'instrumentalité, le déni d'autonomie, l'inertie, la fongibilité, c'est-à-dire le fait que les personnes sont interchangeables, sont vues comme interchangeables, la violabilité, c'est-à-dire le fait que les personnes sont vues comme sans limite à protéger, et la propriété et le déni de subjectivité. L'objectification consiste à traiter une personne comme un objet, à la réduire à une simple chose, selon l'une ou l'autre des modalités de l'objet que je viens d'introduire. On pourrait ici rapprocher cette analyse de ce qu'Aimé Césaire appelait dans le discours sur le colonialisme la chosification. Colonisation, écrit-il, égale chosification. Elle transforme les personnes en choses, en instruments de production, en force de travail, encore utilisables. Le mal propre de l'objectification, c'est donc l'instrumentalisation. On pourrait aussi se plaindre, bien sûr, du déni de subjectivité. On fait comme si une personne n'avait pas d'intériorité ou comme si cette intériorité ne comptait pas, et du déni d'autonomie. On refuse à quelqu'un sa capacité à décider et à agir par lui-même. Mais on retrouve aussi ce déni de subjectivité, ce déni d'autonomie dans l'infantilisation, dans l'animalisation ou même à certains égards dans la diabolisation. Ce qui est propre à l'objectification, c'est qu'elle malmène les personnes en les traitant uniquement comme un moyen au service des fins d'autrui. comme un simple outil destiné au plaisir, à la satisfaction ou à l'intérêt des autres. L'instrumentalisation viole l'impératif catégorique kantien, elle nie le statut sacré de la personne en tant que fin en soi, qui est au cœur de la déontologie. Alors comment la trashification se distingue-t-elle de l'objectification ? La trashification présente plusieurs des caractéristiques de l'objectification identifiées par Nussbaum. Lorsque des personnes sont perçues et traitées comme des déchets, elles apparaissent également comme fongibles, violables, inertes, privées d'autonomie et de subjectivité. Cependant, deux dimensions s'appliquent moins aisément à la trashification qu'à d'autres formes d'objectification. Il s'agit de la propriété et de l'instrumentalité. D'abord, la propriété est définie comme le fait de traiter une personne comme quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre et qui peut être acheté ou vendu. On pensera au concept aussi de commodification. Le déchet n'est pas toujours totalement dépourvu de valeur économique, mais il est marqué par une perte de valeur, une déchéance ou une mise en disponibilité en vue de son élimination. Nous sommes parfois prêts à payer pour nous en débarrasser. Et donc, il a même parfois une valeur négative. Nussbaum décrit une échelle de valeur allant du tableau inestimable au simple crayon. Le déchet est un crayon cassé. La question de la propriété est donc bien moins pertinente que pour les autres formes d'objectification. Quel est le rapport maintenant de la trashification à l'instrumentalité ? Le cas paradigmatique de la trashification, vous l'avez compris, est celui de trajectoires de dégradation, d'abandon et de mise au rebut, dans lequel les personnes sont traitées comme des moyens sans fin. Là où d'autres formes d'objectification conduisent principalement à l'exploitation, la trashification conduit donc davantage à la marginalisation. C'est aussi un rapport à l'instrumentalité transitoire. C'est précisément parce que certains groupes sont initialement perçus comme des outils utiles qu'ils peuvent ensuite être trashifiés lorsqu'ils deviennent malades, handicapés, âgés ou moins productifs. L'abandon fréquent des esclaves âgés dans le sud esclavagiste, dont vous avez vu un exemple dans le récit de Frédéric Douglas sur sa grand-mère, illustre ce phénomène. Ces cas montrent une continuité importante entre la transformation des personnes en outils et leur transformation ultérieure en déchets. Deux étapes liées à un même processus de chosification. C'est aussi un rapport très dégradé, et bien sûr très dégradant, à l'instrumentalité. Les personnes trashifiées apparaissent comme presque sans valeur, mais conservent parfois, malgré tout, une fonction minimale qui les maintient tout au bas de la chaîne de valeur dans une forme résiduelle d'utilité. L'image ici serait celle d'un vieux t-shirt trop usé pour être porté, transformé en chiffon. On lui attribue un usage secondaire, dégradé, absorber la saleté. L'objet demeure à peine dans la chaîne de valeur. Il conserve juste assez d'utilité pour ne pas être entièrement inutile. Et en parlant de chiffon, nous n'oublierons pas qu'il renvoie au terme lumpen, du concept marxiste de lumpen prolétariat. Nous voyons maintenant plus clairement le rapport distinct entre la trashification et l'instrumentalité. Les personnes trashifiées sont perçues comme des outils dégradés, parfois maintenus dans l'économie de la valeur par une mince couche résiduelle d'utilité. Quand le temps de l'utilité est passé ou n'arrive pas, il laisse place à l'abandon et la mise au rebut. Philosophiquement, cette relation, distincte à l'instrumentalité, permet d'entrevoir une forme de disqualification et de dégradation qui n'est pas exclusivement donc centrée sur la violation de l'impératif catégorique, tout au moins de sa formulation négative, à savoir de ne pas traiter autrui comme un simple moyen au service d'une fin. On interprète souvent la formulation kantienne comme une dichotomie, voire une trichotomie. Il y a d'une part le fait de traiter une personne comme un simple moyen au service d'une fin, c'est ce que Kant condamne absolument. Il y a d'autre part le fait de traiter une personne comme une fin en soi, c'est le cœur du respect kantien. Et puis il y a aussi les cas où l'on traite quelqu'un comme un moyen en vue d'une fin, sans le réduire pour autant à un simple moyen, ce qui demeure moralement permissible chez Kant. Mais ce cadre d'analyse laisse peut-être insuffisamment apparaître une autre possibilité. Celle de traiter quelqu'un non pas comme un outil au service d'une fin, mais comme quelque chose de sans utilité, de superflu et d'encombrant. voire comme un obstacle ou un rebut dont il faudrait se débarrasser. Et pourtant, il est évident qu'il s'agit d'une absence fondamentale de non-respect, de respect de l'autre comme fin en soi et de non-respect de la dignité de l'autre. En conclusion, la trashification, ai-je proposé dans cette conférence, est bien davantage qu'une simple insulte rhétorique ou une métaphore occasionnelle. Elle désigne un ensemble de processus sociaux dans lesquels la réalité matérielle et l'imaginaire symbolique du déchet sont mobilisés pour dégrader des personnes. En retraçant ces mécanismes à travers l'association, l'assimilation et la mise au rebut, nous pouvons voir comment les logiques qui structurent nos rapports aux déchets, ce que nous manipulons à contre-cœur, tenons à distance ou cherchons à faire disparaître, structurent certaines de nos relations sociales. L'association montre comment certaines conditions matérielles, des systèmes de production et des aménagements spatiaux rendent certaines vies visiblement enchevêtrées avec les déchets. L'assimilation montre comment cette proximité se stabilise ensuite en un cadre interprétatif dans lequel les individus ne sont plus simplement proches des déchets, mais conçus à travers l'ontologie du déchet, comme impur, brisé, inutile, jetable. Enfin, la mise au rebut, c'est la normalisation de la négligence, de l'abandon et de la mort. Pris ensemble, ces éléments permettent de penser la trashification comme une technologie d'avilissement, distincte des autres, puisqu'elle a une singularité morale importante. Nommer la trashification permet de rassembler au moins provisoirement des phénomènes qui peuvent sembler dispersés. J'en ai déjà introduit plusieurs, les intouchables en Inde et la population rom en Europe, les sans-abri aux États-Unis, en passant par l'abandon des personnes âgées non productives pendant l'esclavage, ainsi que le cas des pauvres blancs dans le sud américain au XIXe siècle. Ces phénomènes impliquent, au XIXe et XXe siècle, ces phénomènes impliquent souvent d'autres formes d'infériorisation, objectification, infantilisation, démonisation ou animalisation, mais le concept de trashification permet de rendre visibles certains mécanismes spécifiques de dégradation qui les traversent. J'aimerais finir avec un poème de Césaire qui, à mon sens, illustre la différence entre trashification et objectification avec force. Dans « Hors des jours étrangers », il s'exprime ainsi. « Mon peuple, quand, hors des jours étrangers, germeras-tu une tête tienne sur tes épaules renouées ? Et ta parole, le congé dépêché au traître, au maître, le pain restitué, la terre lavée, la terre donnée, quand ?» Et c'est là la partie importante pour nous. « Quand donc cesseras-tu d'être le jouet sombre au carnaval des autres ?» ou dans les champs d'autrui, l'épouvantail désuet. Le jouet sombre au carnaval des autres, c'est la chosification, c'est l'instrumentalisation pour le divertissement d'autrui, l'humain pris dans les fins et les plaisirs des autres. Mais l'épouvantail désuet, par contre, c'est la trashification. L'épouvantail n'est plus vraiment un outil, plutôt il est un outil usé, sans valeur, une présence abandonnée dans le paysage social. J'aimerais vous laisser avec cette image pour symboliser la trashification. Et c'est peut-être au fond une des leçons de cette analyse. Une politique égalitaire, digne de ce nom, se doit de refuser qu'un être humain puisse devenir, socialement et matériellement, d'abord un outil, puis un résidu ou un reste. Merci à toutes et tous pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.